Film et moi, l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. Bienvenue dans cette nouvelle émission automnale de Film et moi. Il sera question aujourd'hui de films qui vont du côté de l'étrangeté, de l'absurde, de l'exploitation des corps des femmes, jeunes ou vieillissantes, de l'exploration de l'au-delà, de viscères et de bouffonneries sanglantes. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Romain, qui nous concocte donc tous les lundis une bande-son de musique de film à réécouter en boucle sur Jet. Et il participe aussi, il me semble, au dynamisme de la SNIF, l'absurde séance internationale Nantes Festival, dont il nous parlera en détail. Bienvenue à toi, Jérôme.
Merci Nathalie pour l'invitation.
De rien, c'est un plaisir. Et puis merci d'être venu avec une sélection de films à toi. On va commencer avec ça. Du groupe Blondie, un des sons très 70s du film Anora, premier clin d'œil assumé par le réalisateur au cinéma new-yorkais des années 70. Le réalisateur d'Anora, c'est Sean Baker, réalisateur américain, fer de lance du cinéma indé, déjà remarqué en 2017 pour The Florida Project avec l'époustouflant Willem Dafoe et Red Rocket en 2021. Anora, il a obtenu la Palme d'Or à Cannes cette année. C'est en quelque sorte une version un peu déjantée de Pretty Woman, un conte de fées à l'eau de vinaigre dans laquelle on aurait versé de la coke et de la vodka. Donc c'est l'histoire de la rencontre entre une travailleuse du sexe, Anora, et Ivan, un jeune garçon russe plein aux as, en goguette à New York, très justement interprété par Mark Eisenstein. Donc Ivan, un slacker pourri gâté, invite l'escorte dans sa gigantesque demeure, enfin la demeure de ses parents, et lui propose $15,000 pour passer 15 jours avec lui. On se demande un peu aux premières images si Kechiche ne s'est pas invité à l'écriture du scénario, tant elles sont saturées de bacchanal, somme toute assez banal, entre sexe, fumette, coke et jeux vidéo. On frôle l'ennui, mais on est très vite happé. Car là où Kechiche esthétise de façon assez ennuyeuse les passions tristes de la jeunesse, sans en sonder véritablement les âmes, Sean Baker nous raconte une histoire qui nous tient vraiment en haleine. Le point de bascule, c'est quand l'idylle tarifée entre Ivan et Anora prend un tour merveilleux quand Ivan propose à sa belle escorte de l'épouser. Et elle est trop heureuse de sortir de sa précarité. Mais la famille en Russie ne l'entend pas de cette oreille. Et elle envoie à leur trousse un prêtre orthodoxe corrompu et ses hommes de main pour qu'il brise l'union. Et le film vire alors à la comédie burlesque, façon After Hours, entre bagarres drôlissimes et méchants à contre-emploi, longue virée dans la nuit new-yorkaise, dans la communauté russe de Brighton Beach, du côté de Coney Island, au sud de Brooklyn. Anora, elle est interprétée par la géniale Mickey Madison. Anora, elle déteste qu'on l'appelle par son prénom. Elle se fait appeler Annie, pour gommer ses origines ouzbèques et le milieu social duquel elle espère s'échapper. Elle croit, ou elle espère, que ses charmes suffiront à l'extraire de sa misère. Petite fille un peu naïve en cela, qui croit encore aux contes de fées, mais qui, contrairement aux princesses d'autrefois, belles, douces et soumises, montre l'écrou dès qu'on touche à sa dignité et qu'on ne respecte pas son consentement. Elle crève l'écran quand elle passe par tous les états, tour à tour combattante et abattue. A remarquer la belle photo du chef-op Drew Daniels qui capte la froidure de l'hiver new-yorkais, ses morsures qui sous-tendent les moments les plus drôles de cette virée nocturne à 100 à l'heure dans Coney Island, partie à mon sens la plus réussie du film. Et la puissance émotionnelle de la magnifique dernière scène en fait plus qu'une comédie sociale. C'est un contre-récit de l'Amérique que nous offre Sean Baker, un hommage, comme je l'ai dit, au cinéma new-yorkais des années 70, dont Sean Baker revendique la portée politique, qui met à jour à travers les travers de l'âme humaine dans une société néo-capitaliste où le corps des femmes, celui des travailleuses du sexe, finalement nouvelle classe ouvrière, corps déshumanisé, possède une valeur marchande qui peut servir de transaction. Mais la vérité et la beauté des émotions n'est jamais loin dans le cinéma de Sean Baker, qui est au final pas si désenchanté et si cynique que cela. On peut aussi remarquer que Sean Baker, il refuse, c'est intéressant, de faire produire ses films par des plateformes qui ne croient pas à l'expérience de la salle. Il dit qu'il fait des films pour maintenir les salles en vie. Alors, raison de plus pour courir voir son dernier film au cinéma 14A, au Concorde et bientôt dans vos cinémas associatifs préféré. Jérôme, est-ce que tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu. Oui.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je ne suis pas fan du film.
C'est vrai?
Non, je n'ai pas aimé, je n'ai pas adhéré.
D'accord.
Je préfère plutôt le cinéma, effectivement. Tu en parlais d'Abdelatif Kechiche.
Ok.
Et puis, sur ce milieu-là, sur le sujet, en l'occurrence, du film, j'ai... Alors, ce n'est pas un film, c'est une série, mais j'ai préféré la série The Deuce, qui a diffusé en son temps, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois, la chaîne HBO.
D'accord.
Une série en 3 saisons avec Maggie Gyllenhaal, qui justement interprète une prostituée, qui va se lancer dans le milieu du X.
Ouais.
Et en fait, on suit comme ça l'évolution de cette femme sur 10-30 ans et de la naissance du milieu de la prostitution dans le New York des années 70 et jusqu'à l'arrivée des VHS et des films X avec toujours à lorgner de ce qui se passait en Europe.
D'accord, à voir.
Oui.
Ok, merci Jérôme. On continue avec ça. Alors ça, c'est un des thèmes musicaux du film The Substance, composé par, la musique a été composée par Raffery, qui est un compositeur, producteur britannique, qui pose des notes électroniques et dissonantes qui correspondent, je trouve, parfaitement à l'esprit du film. C'est un film fou, radical, féministe, fantastique dans tous les sens du terme, qui a obtenu le prix du scénario à Cannes cette année. Donc The Substance, il a été réalisé par Coralie Farja, c'est une production américano-britannique entièrement tournée en France, en studio, en Seine-Saint-Denis et en extérieur sur la Côte d'Azur, à cause des palmiers sans doute, qui joue un rôle assez important dans le film. Coralie Farja, elle a été nourrie au cinéma de genre et elle suit en ce sens la porte ouverte par Julia Ducorneau en 2021 avec Titane. Elle a été remarquée avec son premier film Revenge en 2017. Alors en préambule, il faut vraiment quand même aimer le genre du body horror pour vivre pleinement cette expérience de cinéma assez unique et assez géniale. Il faut vraiment se laisser emporter pour apprécier. C'est l'histoire de Elizabeth Sparkle, interprétée par la fabuleuse Demi Moore, qui, avec ce rôle, frise l'autodérision, qui aurait pu obtenir d'ailleurs le prix d'interprétation à Cannes, tant elle accepte de se mettre à nu dans tous les sens du terme. Alors, Elizabeth Sparkle, qui veut dire scintillement en anglais, c'est donc une actrice oscarisée qui vit dans une grande solitude, qui a perdu de son éclat médiatique et qui s'est recyclée dans une émission d'aérobic. Coucou à Jane Fonda. Et au gym tonic de Véronique et Davina, toi-même qui as plus de 50 ans, tu sais. Donc le jour de ses 50 ans, le patron d'Elisabeth lui annonce que ses fesses ont dépassé la date de péremption et la remercie avec un tonitruant « À 50 ans, ça s'arrête ». Le patron, il est interprété dans toute son horreur par le génial Dennis Quaid. Caricature du vieux mâle blanc dominant, harceleur, misogyne, qui n'a qu'un mantra que les corps jeunes et soi-disant sexy rapportent pour les actionnaires. Et là où on pourrait avoir une histoire de reconstruction, de rédemption, d'acceptation de soi, genre feel-good movie ennuyeux et attendu, Coralie Farja nous embarque dans une histoire à la Dorian Gray, où le portrait de Dorian Gray est remplacé par une mystérieuse substance fluo qui permettrait d'accoucher d'une meilleure version de soi-même, comprendre version jeune et belle. Alors, Elisabeth, elle cède à la tentation, elle accepte le pacte faustien. Deux corps coexistent, alors, dans une sorte de vie finalement en garde alternée. Alors, il y a Elisabeth, le corps d'Elisabeth, version vieille, qui devient sous version jeune, interprétée par Margaret Qualley. Mais Elisabeth reste la matrice et la maîtresse du jeu. Et Coraline Farja, elle enfonce le clou dans notre rétine à coups de sang, de viscères, de lambeaux de peau maltraités par l'héroïne elle-même, qui déteste son corps vieillissant jusqu'à la folie. Mais la revanche n'est pas loin et elle sera sanguinolente. Donc là, Coraline Farja, elle réussit à mettre en scène une forme de tiraillement, finalement. Il y a un tiraillement existentiel entre des personnages. C'est un mélange de dévalorisation de soi et puis d'un narcissisme excessif. Et elle parvient à représenter cet antagonisme finalement présent en chacun de nous, donc auquel on peut facilement s'identifier, s'aimer et se détester. En même temps, c'est finalement assez humain. C'est aussi une métaphore du destin féminin tracé par les hommes dans une société néo-capitaliste patriarcale, impitoyable avec les critères de beauté bankable. Jeunesse, popotin qui se trémousse, jeune femme au sourire forcé, qui ne parle pas ou alors très bas, corps aseptisé, lisse, glacé, instagrammable à l'infini. Tant qu'il corresponde aux critères normatifs établis. Et dans The Substance, toutes les femmes sont ici vengées de la violence de cette société jeuniste, patriarcale, par la violence qui nous éclate à la figure. Coraline Farja, elle aime le cinéma. Ça se voit, tant les clins d'œil sont nombreux. Clin d'œil à Shining, clin d'œil à Carrie dans l'époustouflante scène finale, clin d'œil musical aussi à Vertigo et clin d'œil à Kubrick. Alors, le producteur du film, Nicolas Royer, explique que Coralie Farja voulait que la base des effets visuels soit organique, ce qui signifiait travailler avec des prothèses, comme dans les années 80, comme dans des films comme Alien ou comme La Mouche. Et il y a de moins en moins de films produits de cette façon-là, tout simplement parce que ça demande un travail fou et un investissement conséquent. Elle a tenu son pari, elle est allée jusqu'au bout. À noter que de jeunes sociétés françaises ont travaillé sur les effets visuels et la post-production. Et c'est l'occasion de souligner la vitalité de ce secteur, de ces sociétés en France. Donc le résultat, il est, à mon sens, hallucinant. Jérôme, je crois que tu l'as vu.
Oui.
Alors, je ne sais pas si cette fois, tu vas partager mon point de
complètement.
Vue.
Complètement.
OK.
Complètement. On a eu la chance de recevoir Coralie Farja pour l'ouverture de la SNIF. Donc c'était le 10 octobre dernier et le 8 octobre dernier pardon. Et voilà, c'était magnifique. Moi j'ai vu le film en séance de presse un matin à 9h30.
Waouh. Bon réveil.
Et donc Coralie est venue présenter son film et débriefer surtout avec le public lors de la SNIF. Donc il y a eu un très très bel échange, c'est quelqu'un de très agréable, très 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 ouvert, très disponible. Et le film est fabuleux, ouais. Parce qu'effectivement, il y a ce discours très, très engagé qui fait du bien. Et en plus, de nombreuses références qu'elle assume totalement. Alors évidemment, tu as cité Kubrick, et aussi, on pourrait aussi parler de Cronenberg, évidemment, oui. Avec la mouche, etc. Oui. Sur tout un tas de transformations, même de plans qui sont à la fois dans les couloirs, etc., où on voit des parallèles avec Shining, ou dans la salle de bain, on voit des parallèles avec 2001. L'Odyssée de l'espace, ou les toilettes également de Full Metal Jacket.
Et moi, j'ai même pensé à Elephant Man.
Tout à fait, tout à fait.
On ne dira pas pourquoi.
Oui. On dit aussi que son film est lynchien, totalement. Ouais. Et ce sont des choses qu'elle revendique et elle en est assez heureuse que le spectateur ou la spectatrice puisse comme ça capter des éléments du film.
Oui, donc ça crée une complicité aussi avec les spectateurs. Ouais. C'est génial.
Et puis, effectivement, Demi Moore est éblouissante.
Ah là là, elle est extraordinaire quand même, cette homme. Puis il y a vraiment l'autodérision parce qu'en on voit bien qu'elle-même a eu recours à la chirurgie esthétique à certains moments de sa vie.
De ça, oui.
Et donc, c'est une espèce d'autocritique, d'autodérision que je trouve assez géniale.
Ouais, ouais.
Une forme d'honnêteté aussi, finalement, par rapport à elle-même, qui est assez super. Mm. Est-ce qu'elle vous aurait dit d'autres choses par rapport à la production, la réalisation du film ?
Oui, elle en a longuement échangé avec le public et notamment... au début sur le casting, elle croyait pas trop avoir Demi Moore. Elle dit on va lancer le truc avec ses producteurs, ils ont décidé de le faire, puis finalement ça a fonctionné. Et les premières scènes qu'elle a tournées avec Demi Moore, c'était la scène où il y a effectivement cette sorte d'accouchement où elle est totalement nue dans une salle de bain. Et en fait, ça a permis du coup de décomplexer tout de suite. Elle nous disait la relation entre toute l'équipe du film et puis les deux comédiennes.
Ouais.
Et donc du coup, ça a créé comme ça une relation très 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 proche entre toutes. Ça fait partie des petites anecdotes qu'elle nous a racontées, notamment effectivement sur le recours aux prothèses, etc., pour les maquillages, etc., fait aussi que Demi Moore a passé plusieurs heures de maquillage par jour pour tourner certaines scènes.
Et puis les acteurs, ils sont plus habitués à ça.
Non,
donc il fallait l'accepter aussi.
Totalement,
d'avoir un corps un peu malmené à certains moments, les prothèses.
Oui, quand on passe 6 heures au maquillage avant de tourner.
T'imagines, ça devait être quelque chose. Puis c'est pas le maquillage habituel. Quoi,
pas vraiment, non.
Le maquillage défigurant, on va dire.
C'est ça.
Eh bien, vous êtes... toujours sur Jet 91.2, toujours à l'écoute de Film et moi, en compagnie de Jérôme Romain. Continuons dans l'exploration de l'étrange avec ça, un morceau que vous reconnaîtrez tous, mais dont vous avez peut-être oublié le lien avec le cinéma. C'est un morceau de Richard Strauss, ainsi parlait Zarathoustra, et il est présent Génial transition. Dans l'époustouflante scène finale de The Substance, où Coralie Fragin-Ansa rend hommage au réalisateur du premier film de ta sélection, Jérôme. Alors, ça prouve combien ce film est cultissime et continue à influencer les réalisateurices encore aujourd'hui. Je veux parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, sorti en 1968. En 68, il s'en est passé des choses, du tintamarre. Une jeunesse qui aspire à se débarrasser du vieux monde, avec des mots qui explosent, une jeunesse qui bâtit une utopie au-delà des murs des conventions. Et au même moment, deux hommes portent la vision d'un monde futur et s'interrogent sur l'origine de l'humanité, l'existence de la vie hors de notre galaxie. Imagine un monde en 2001, dans une odyssée de l'espace psychédélique et ultra novatrice pour l'époque. Ces deux hommes, ce sont donc le réalisateur Stanley Kubrick et l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke. Le film s'inspire d'ailleurs de deux nouvelles de Arthur C. Clarke, À l'aube de l'histoire et La Sentinelle. À sa sortie, c'est intéressant de noter qu'il a rencontré une réaction assez contrastée. Alors, d'une part, il a été critiqué pour son manque de narration, sa lenteur, 156 minutes, un exploit à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est presque la norme. Alors, sauf peut-être Quentin Dupieux, mais il oui. fait tout pour se faire remarquer, celui-là. Et le film, il a à la fois été remarqué à sa sortie pour son ambition, son esthétique, ses effets spéciaux très innovants, assez révolutionnaires. C'est devenu un film culte, on l'a dit, un classique du cinéma de science-fiction. Il a une influence sur la culture populaire et sur de nombreux autres films de science-fiction après lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise des œuvres musicales à la place d'une narration traditionnelle. Au final, les dialogues, ils occupent une place complètement secondaire. Alors, par exemple, le mouvement de rotation des satellites, il est mis en avant par la suite de valse du Danube bleu de Strauss. Et Kubrick, il prive le spectateur de l'époque aussi de toutes leurs références habituelles. Et il leur donne peut-être la possibilité d'imaginer, de se constituer un langage sans référent extérieur. Il n'y a aucune place pour les sentiments, l'atermoiement. Il observe l'homme finalement comme un objet céleste parmi d'autres, comme on s'intéresserait à la trajectoire d'une comète. Il a été nommé à 4 reprises aux Oscars, mais elle a reçu que le prix des meilleurs effets visuels. Est-ce qu'on peut pitcher 2001, l'Odyssée de l'espace? Alors, ça me semble un petit peu compliqué, mais pourquoi pas? Alors Jérôme, alors soit tu pitches, soit tu nous dis quand est-ce que tu l'as vu, est-ce que ça t'a produit.
Moi, j'ai pas pitché le film. C'est Kubrick qui a voulu faire une sorte de condensé de l'histoire de l'humanité où on démarre avec des australopithèques qui se battent et puis on finit avec un fœtus qui
apparaît. Ils se battent et découvrent l'arme.
Oui.
C'est ça qui leur permet avec le monolithe, au monolithe qui est quand même le fil rouge aussi.
Tout à fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, monolithe qui interroge toujours. Que représente-t-il?
Oui, c'est ça.
Et moi, je l'ai vu, j'étais... depuis moins que je me souvienne, c'est peut-être un des premiers films que j'ai vu quand j'étais gamin.
D'accord.
J'avais la chance d'avoir des parents qui alors m'emmenaient pas au cinéma mais qui me laissaient regarder des films à la télé dans mon jeune âge et notamment même mon père me laissait regarder des fois le cinéma de minuit sur France 3 sur FR 3 à l'époque
ça s'appelait FR 3. Comment il s'appelait le présentateur je ne me souviens plus là.
Voyons je crois et donc oui à l'époque où les télévisions passaient encore du Kubrick en clair il y avait 2001 passait pas régulièrement mais de temps en temps et à chaque fois je le regardais et j'étais complètement captivé par ce film et d'ailleurs Kubrick avait déclaré une fois qu'il fallait le voir jeune ce film parce qu'au moins c'est notamment aussi ce qu'expliquait une réalisatrice qu'on avait reçue à la pire séance, Lucie Lazilovic, qui nous avait expliqué qu'elle aimait tourner avec des enfants parce qu'en fait ils posent pas de questions les enfants, on les fait tourner une scène et ils disent bah oui c'est normal et en fait Kubrick expliquait ça, il dit bah un gamin qui regarde 2001 il se pose pas de questions, pour lui c'est normal,
il se laisse embarquer
et donc le fait de voir un monolithe, il ne pose pas de problème, même s'il est sur la Lune, s'il vole ou s'il est avec des australopithèques. Et donc, du coup, je l'ai vu étant gamin, j'ai complètement adoré ce film qui n'a pas pris une ride. On peut revoir aujourd'hui le film, il date de 68, on le revoit aujourd'hui en 2024, les effets sont complètement fous.
Ouais.
Et il y a même des... Alors, il s'était fait aider, Kubrick, notamment de la NASA, etc. On a même raconté que c'est lui qui avait fait le tournage de l'homme qui marchait sur la Lune, que les conspirationnistes aujourd'hui disent « Mais non, on n'a jamais marché sur la Lune, c'est Kubrick qui l'a tourné. »
C'est ça.
et et tout un tas d'objets que l'on voit au début du film. Et notamment, en fait, il a fait travailler des sociétés américaines comme IBM, Sony, et puis également, alors qu'il est japonais, mais d'autres pour, en fait, leur dire bah, « inventez-moi des objets qui seront utilisés dans le futur ». Et il y a une tablette, notamment, qui apparaît dans le film. Il invente la visio. Il est en visio, un des personnages est en visio avec sa famille pour son anniversaire, etc. Et la tablette est aussi quelque chose qui apparaît en 68. Ouais, quoi. Alors qu'aujourd'hui, voilà, ça fait partie des appareils que chacun utilise.
Sa tablette, elle est présente peut-être dans l'œuvre de Clark, non ? Dans la nouvelle, je sais pas,
c'est oui, ils avaient travaillé ensemble.
Le côté visionnaire des auteurs de SF, c'est impressionnant.
Et puis on a raconté tout un tas de trucs aussi, notamment sur... l'ordinateur s'appelle Carl dans la version française, mais Hal dans la version originale, H-A-L, qui sont en fait les lettres qui précèdent IBM.
D'accord.
Et donc, du coup, on avait aussi dit, bah voilà, et donc IBM l'avait un peu mal pris au début en disant, bah voilà, vous inventez un ordinateur fou, invente l'intelligence artificielle que l'on connaît aujourd'hui, avec toutes les menaces que ça pèse. Il avait déjà en 68, prédit ce qui allait arriver.
Complètement. Donc, à revoir, petits et grands.
Ah oui, complètement.
les parents peuvent accompagner les enfants pour aller
Je l'avais revu cinématographe une fois aussi. Et il y avait effectivement plein d'enfants, plein de jeunes dans la salle, accompagnés de parents ou de grands-parents.
C'était la version restaurée C'est Nolan qui a fait une version restaurée.
Oui.
Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas si restauré que ça, enfin, qu'il avait quand même gardé beaucoup de ce qu'on pourrait appeler comme des défauts, on va dire, pour le cinéma très lissé d'aujourd'hui, mais volontairement.
Oui, Christopher Nolan en fait n'aime pas en plus lui le numérique. Il continue de filmer. J'avais vu Oppenheimer au 14A en 35 mm. Il aime en fait ce grain de caméra qui fait l'origine du cinéma. Et donc il voulait préserver ça.
Préserver ça et se remettre dans les conditions des personnes qu'il avait découvert aussi en 68, ce qui est assez génial parce que c'est aussi un voyage dans le temps, pour le coup, super intéressant. Alors, continuons notre voyage à travers le temps et les planètes avec ça. Ça, c'est le thème musical composé par Jerry Goldsmith pour le premier film de la saga La Planète des Singes. Alors, la saga La Planète des Singes, ça fait partie donc de la sélection que tu proposes, Jérôme. Elle est née du roman de science-fiction de l'auteur français Pierre Boulle, publié en 1963. Le premier film de la saga, il a été réalisé par Schaffer en 68. Quelle année prolifique, décidément.
Totalement.
Et le secret de la planète des singes, c'est donc la suite. C'est le second volet de la saga réalisé par Ted Post en 70 et c'est celui que tu as choisi. La saga, la planète des singes, elle donne ses lettres de noblesse à la science-fiction. À un moment où peut-être elle était aussi reléguée à la série B pour enfants. Alors, de quoi s'agit-il ? Le pitch rapide. Donc, dans le premier film, La planète des singes, Taylor, interprété par Charlton Heston, bodybuildé, testostéroné, huilé à outrance. Donc Taylor et ses coéquipiers disparaissent sur la planète des singes. Dans le deuxième, Le secret de la planète des singes, un autre groupe d'astronautes est envoyé à leur trousse. Leur vaisseau s'écrase à son tour sur la planète des singes et seul Brent, interprété par James Franciscus, survit. Très vite, il rencontre Nora, il rencontre, parce qu'il ne l'avait pas vue avant, Nora, et parvient à échapper aux singes grâce à Zira et Cornelius. Lancé à la recherche de Taylor, Brent et Nova s'enfoncent dans la zone interdite, où ils vont faire une nouvelle dangereuse découverte. Alors la planète des singes, moi je trouve, alors si on l'analyse un peu avec le recul, elle s'inscrit, je trouve, pleinement dans son époque. On peut peut-être y voir un réquisitoire aussi contre la guerre, en particulier la guerre du Vietnam de l'époque, et l'arme atomique. Avec le final, quand Brent découvre la communauté souterraine et l'objet du culte des singes. Alors, c'est une question encore bien évidemment tristement d'actualité qui fait peut-être de cette saga une parabole sur la ségrégation, sur la légitimation des actes belliqueux aussi. Et ça montre encore une fois la puissance du cinéma comme miroir de nos parts les plus sombres et les plus dévastatrices. Alors Jérôme, quand est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu as ressenti ?
Bon, alors La planète des singes, c'est clairement mon film préféré.
C'est vrai ?
De tous.
Wow.
C'est un film que je regarde chaque au moins une fois chaque année.
Le film de Noël.
Ouais, ça c'est vraiment ouais. Mon film de chevet. Je suis complètement tombé. Je l'ai vu très jeune. J'ai vu aussi. J'adore les singes au cinéma. Voilà.
D'accord.
J'ai vu King Kong de John Killenmin sorti en 76 avec Jessica Lange.
Ouais.
Je suis tombé amoureux de Jessica Lange et de King Kong. Et La planète des singes, c'est pour moi, oui, c'est un film fabuleux qui est extrêmement d'avant-garde. On parlait notamment tout à l'heure avec The Substance pour Coralie Farja, des prothèses, oui. Des maquillages, etc.
Très organique.
Voilà, la ouais. planète des singes, c'est ça. Ouais. Il y avait 7-8 heures de maquillage, les maquillages de John Chambers, qui avait reçu un Oscar d'ailleurs pour tout ça, et ouais. à juste titre.
Ouais.
Et alors, le premier volet de Franklin Schaffner est fabuleux. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième parce que c'est vraiment Je me suis toujours. Je me rappelle encore vraiment, ça avait marqué gamin de voir la main de Charlton Heston ensanglantée qui appuie sur le bouton à la fin et qui enclenche la bombe atomique.
Ah oui, c'est ça. Tu as spoilé.
Oui, je raconte la fin, désolé. Et vraiment, ça m'avait marqué. J'avais compris en fait ce que c'est. Gamin, je comprenais ce que c'était que la bombe et voilà, j'étais pas encore féru d'histoire ou autre, mais je comprenais que voilà, l'homme venait d'enclencher le mal. Et je trouve que La planète des singes, c'est ça. C'est les singes d'ailleurs le disent plusieurs fois. L'homme engendre que le mal. C'est la seule espèce qui peut détruire son frère, etc. Il y a beaucoup de messages très très forts qui sont véhiculés dans cette saga et dans les premiers films.
Ouais.
Et il y a aussi le salut vient toujours des femmes en plus.
Ouais.
C'est-à-dire que Nova elle ne parle pas, elle est muette. Alors il y a eu une explication des films récents qui ont essayé de réexpliquer pourquoi est-ce qu'en fait Nova ne parle pas. Mais voilà, il y a un mystère par rapport à ça, auquel, bon, bah, elle parle pas, quoi. Mais les humains sont muets à l'époque de La planète des singes, à l'époque de cette première valve de film. Mais ce sont toujours Zira, c'est la femme guenon, qui va en fait aider Taylor à s'échapper, etc.
Ouais.
Le salut vient toujours d'elle. Et la masculinité, le patriarcat, etc., est vraiment ce qui peut arriver de pire. On va toujours à la guerre, l'homme se bat, etc.
Ouais.
Et l'homme se détruit lui-même, c'est le message qu'en renvoie le film.
Ouais. Très, très fidèle en cela au livre de Pierre Boulle.
Oui, complètement. Oui. Le livre qui a quand même un peu différent du film, parce que en fait, si vraiment, c'est impossible de reconstituer le livre au cinéma, parce qu'en fait, il joue sur l'imaginaire des lectrices et des lecteurs.
Tout à fait.
Voilà, donc on peut difficilement, fin est...
Et est-ce que tu as vu le dernier ?
Oui. Oui, je les ai tous vus.
Qu'est-ce qu'on a pensé du dernier ?
Et je trouve que c'est pas mal fait. Alors là, évidemment, il n'y a plus du tout de... On n'est plus sur les maquillages de John Chambers, tout est en numérique, mais je trouve qu'ils arrivent quand même, ils font en sorte de ne pas tomber dans les films trop blockbuster ou films qu'on peut voir aujourd'hui sur tous les films de super-héros, etc. Aller dans l'outrance ou dans le... On est plus face à un jeu vidéo qu'autre chose. Ouais. Ils ne tombent pas trop là-dedans. Mm-hmm. Ils essayent quand même de conserver un certain discours et puis de rester un peu fidèles à l'origine de la saga.
Très bien, c'est l'occasion donc de redécouvrir, de revoir
et de relire
Pierre Boulle,
qui est aussi l'auteur du Pont de la Rivière, quoi.
Oui, voilà, donc c'est prolifique et qui a écrit des œuvres qui ont marqué, évidemment. Donc allez vous revoir La Planète du Singe, la saga, le dernier film, pour le plaisir, encore une fois, des petits et des grands.
Exactement.
Complètement. Alors continuons notre exploration de tes choix de cinéma, Jérôme, avec ça.
And cure his heart. Down he sins of street life fancies, chase the costumes she shall wear. Severin awaits you there.
Alors ça, c'est le morceau Venus in Furs du Velvet Underground, thème musical du film Last Days de Gus Van Sant, qui fait partie de son choix. Last Days, il a été réalisé en 2005. Et il clôt la trilogie expérimentale de Gus Van Sant après Elephant et Gary. Il est inspiré, juste inspiré, des derniers jours de vie du chanteur de Nirvana, Kurt Cobain. Mais ce n'est pas un biopic. Souvent, on a tendance à le dire de façon assez réductrice, c'est pas un biopic. Gus Van Sant, il filme Blake, un artiste replié sur lui-même, qui fléchit sous le poids de la célébrité, du succès et d'un sentiment d'isolement paradoxal, assez croissant. Donc il est réfugié au milieu des bois. Il tente d'échapper à sa vie, à son entourage, à ses obligations. Donc la rock star, assez dépressive, regarde, écoute et attend la délivrance. Alors pour revenir quand même au chanteur de Nirvana, on peut se demander pourquoi il continue de déchaîner autant de passion 30 ans après sa disparition. Alors moi je dis c'est peut-être moins pour ses vies, ses afflictions que pour sa sensibilité à fleur de peau, ses convictions humanistes. Peut-être aussi pour avoir épousé Courtney Love en pyjama. Peut-être pour ça que Gus Van Sant l'a choisi, non, je ne crois pas en fait. Alors oui, c'est une figure assez christique. Il y a son calvaire, son chemin de croix, ses compagnons, son pèlerinage, son errance martyre, sa résurrection. Le film, ce n'est pas un cours de catéchisme, pas du tout. Mais c'est peut-être une façon justement de faire revivre, de faire du bouche à bouche aux personnages perdus, de transcender leur jour ordinaire, banal, avec leurs habitudes assez usées, et de redonner vie à des corps et un cerveau anesthésié peut-être par le succès. Alors Gus Van Sant, c'est un cinéaste hypersensible qui est attiré par l'étrangeté, par la bascule vers la mort. Hein. Et cette sublimation de la délivrance, un peu à la Sioran, elle est assez dérangeante. Alors la démarche esthétique, elle est tout à fait respectable, mais j'avoue personnellement que ça me laisse assez en dehors, ça me laisse assez de marbre. J'ai pas vraiment été emportée par le film. Jérôme, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi ça fait partie de ton choix et peut-être de me convaincre?
Moi, j'aime beaucoup Gus Van Sant. Franchement, j'adore ce réalisateur. J'ai été ce qu'on a appelé la tétralogie de la mort chez Gus Van Sant avec Elephant, Last Days, Jerry et puis Paranoid Park. J'adorais Kurt Cobain, j'adorais Nirvana. Je me rappelle très bien au lycée le choc que ça a été quand on a appris avec mes amis de l'époque sa mort. Et ça a été une telle déflagration que moi, je n'ai pas pu réécouter de musique rock pendant des années.
Ah d'accord.
Et je me suis
Tu as été obligé de faire le deuil, quoi, finalement.
Oui,
de...
c'était assez étrange. Je ne sais pas comment aujourd'hui, peut-être que j'en fasse une psychanalyse.
On ne va pas aller jusque-là.
Mais avec mes amis à l'époque au lycée, on écoutait beaucoup de rock et beaucoup de Nirvana. Et à sa mort, j'ai vraiment complètement arrêté ce genre musical. Je suis passé au hip-hop et au rap.
Direct.
Voilà, c'est très étrange. Et je m'y suis remis vraiment après, quand je suis sorti du lycée, quoi, après le BTS, quoi, quand je suis arrivé à la fac. Et Last Days, je trouve une beauté magnifique. Je trouve que Michael Pitt vraiment s'empare du rôle.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'acteur, bien évidemment.
Ouais. Hein, et c'est lui vraiment qui incarne peut-être plus lui-même, en fait, un personnage. Oui. Alors, on y voit derrière, évidemment, l'histoire de Kurt Cobain, mais c'est peut-être plus Michael Pitt, en fait, qui incarne lui-même ce personnage-là qui nous fait penser à Kurt Cobain, avec plein de scènes à la fois drôles et très, très, très émouvantes. La scène finale où il se suicide, d'ailleurs, est hors champ. On entend juste le coup de feu, mais Gus Van Sant a la pudeur de ne rien nous montrer de plus.
C'est pas un horror body.
Non, voilà.
Film.
Et puis après, il y a des scènes assez drôles comme ces deux garçons mormons qui à un moment donné lui rendent visite, etc. Bon, lui, il est encore, je crois des Rangers ou des Doc Martens au pied. Puis il a une sorte de il a enfilé ce qu'il avait sous la main. Je crois c'est une tenue même de femmes pour dormir. Enfin bon, c'est assez drôle. Et puis il est là, en fait, il les entend à peine, quoi. C'est tout ça est assez drôle. Et la façon de filmer, les plans de caméra, etc. J'aime beaucoup plus la musique, à la fois jouée par certaines musiques additionnelles comme effectivement le Velvet Underground ou alors des musiques propres que Michael Pitt et son groupe avaient fournies au film. J'ai pris Last Days, mais j'aurais pu aussi bien choisir Elephant, qui m'a vraiment bouleversé.
Ouais. Alors moi, j'ai été davantage bouleversée par Elephant. C'est peut-être à cause du thème aussi.
Mais
qui m'était. J'étais assez sensible au thème de la jeunesse, l'adolescence, les écoles et de l'éducation, etc. Et de cette perte de repères, peut-être aussi, de la jeunesse, qui est encore malheureusement d'actualité, finalement. Donc ces films, encore une fois, ceux de Gus Van Sant, ils sont assez intemporels. Ouais. Ils sont au-delà de l'actualité, c'est ça qui en fait leur force.
Totalement.
Aussi.
J'ai revu récemment Harvey Milk, et ça faisait partie aussi des films qu'il voulait faire depuis très longtemps. Il a mis longtemps à pouvoir trouver la production pour le faire.
D'accord.
Et pareil, je trouve Sean Penn fabuleux dans ce film.
Peut-être plus classique ce film, je dirais, en termes de narration en tout cas.
Totalement, oui. Peut-être. Plus hollywoodien.
Plus de dialogue, plus hollywoodien, mais à voir aussi Harvey Milk, bien sûr. Donc Gus Van Sant à revoir, bien sûr, pour notre plaisir à tous. Dans ce son, on sait que le film dont tu voudrais nous parler n'est pas un feel-good movie, ou Emily in Paris. Et une question me taraude. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ou souvent des cigales dans la musique des films d'horreur ? Étonnant. Bon. Alors, il s'agit de la musique de Hell Night, film d'horreur réalisé par Tom DeSimone, sorti en 1981. Le pitch y raconte la nuit passée par quatre étudiants dans un manoir abandonné et réputé hanté. Bon, somme toute, c'est assez classique. Alors, c'est une intrigue qui mélange des éléments de slasher. Donc, slasher, c'est
tueur en série,
avalanche de meurtres qui se suivent. Donc, mélange de slasher, de films gothiques et de maisons hantées. Il y a aussi un sous-texte qui est sur la classe sociale et la représentation du personnage de Blair, un des personnages principaux, l'étudiante, comme dernière survivante ingénieuse, intelligente. Alors ça en fait un film de genre, je trouve assez réussi. Alors quand est-ce que tu l'as vu ce film Headlight? Est-ce que tu l'as vu en 81 ou à sa sortie ou plus tard?
Redire l'année, je ne sais pas, mais je l'ai vu très très jeune. Le film je l'ai vu en fait à la télévision.
D'accord.
Ça je m'en rappelle. Et le film m'a profondément marqué. La scène finale m'a profondément marqué. D'accord. Et m'a longtemps poursuivi. Dedans, il y a Linda Blair qui venait de tourner dans L'Exorciste quelques années auparavant chez William Friedkin. Et puis, en fait, la scène finale m'a profondément marqué. D'accord. Et j'ai longtemps cherché à retrouver le film, à essayer de le trouver en DVD ou même en VHS, etc. Et puis, il y a un éditeur qui s'appelle Rimini qui l'a ressorti il y a 3-4 ans en combo Blu-ray-DVD. Et là, je me suis précipité dessus. J'ai longtemps... Alors, je savais qu'en français, le titre, c'était « Une nuit en enfer »,« Une nuit infernale ». Enfin, j'avais toujours gardé en mémoire ce thème. Et puis surtout, la scène finale. Donc, dès que je voyais un film, un DVD qui traînait dans des ressourceries ou autres, dans des solderies, je me dis « Ah bon, je vais essayer celui-là. Peut-être que c'est celui-là, mon film que je cherche depuis tant d'années. » Voilà, c'était ça. Et puis, non, c'est pas celui-là. C'est pas encore la même, c'est pas du tout les mêmes histoires, etc. Ouais. Donc bon.
D'accord. Et ça t'a forcé à voir plein d'autres films d'horreur.
C'est ça. Ouais. Et donc arrive le lancement de Hell Night par Rimini. Et là, enfin, je retrouve le film qui m'avait tant marqué quand j'étais gamin.
Et t'as ressenti les mêmes choses?
Ah oui.
Quand tu l'as revu. C'est étonnant. Et t'avais quel âge quand tu l'as vu pour la première fois?
Le film est sorti 81, en 81. Ouais. Je sais pas, je devais peut-être avoir 7-8 ans. Ouais.
Ah oui. D'accord, ok. Et ça, t'as pas fait de cauchemar?
Non, jamais. Non.
Ah oui, c'est étonnant la façon dont les enfants peuvent percevoir les films d'horreur, parce qu'on dit souvent, oh là là là, attention, ça va les traumatiser.
Oui, c'est ça, oui.
Mais non, toi, c'est pas le cas. Mais par contre, ça te continue à te poursuivre, les films d'horreur.
Oui. Tom DeSimone, le réalisateur, en fait, est un réalisateur gay qui a fait des films porno.
Ah ok. Voilà.
Donc je trouvais ça rigolo qu'il se soit tout à coup lancé dans le cinéma d'horreur.
Avant Hell Night.
Franchement, faut qu'on se calme cette année.
Pourquoi?
Faut que trop la fête, dit-elle.
C'est quoi d'ailleurs?
Ok, bébé, je sais pas du tout ce que c'est.
Vas-y, je te suis.
ASNIF, j'aimerais bien que tu m'en parles.
Alors du coup, on a pris cet acronyme ASNIF qui fait référence à d'autres festivals de films fantastiques, notamment en Europe. Il y a le BIF,
d'accord,
donc à Bruxelles. Le NIF à Neuchâtel en Suisse, le PIF à Paris et l'ASNIF du coup à Nantes.
Ah bah super.
Et l'absurde séance existe depuis 25 ans. à Nantes et créé quelques émules d'ailleurs un peu partout des fois en France. Et puis donc la SNIF avait lieu chaque année au mois d'octobre, voilà, durant une semaine du mardi au dimanche, avec à l'intérieur ce qu'on appelle la nuit fantastique,
oui.
Donc qui a lieu du samedi au dimanche, samedi à partir de 22h30 jusqu'au dimanche à l'aube, 6-7h du matin.
D'accord. Donc une nuit non-stop de, voilà, d'horreur, de pop-corn, de cris, de rire.
De rire, voilà, oui, beaucoup.
Ambiance dans,
oui,
la salle.
Oui. On avait en général 400 festivaliers ou 400 fans sur la nuit fantastique. On a eu 700 pour la dernière.
Ouais. On n'a pas d'espoir que ça continue d'une façon ou d'une autre.
Ah bah ça, c'est il appartient au cinéma 14A et puis à Jean-Maurice de trouver un accord peut-être pour voilà proposer quelque chose pour la suite,
ouais,
oui. Ou avec quelqu'un d'autre.
Oui, pourquoi pas aussi notre salle.
C'est ça, c'est ça.
Ce serait dommage, je trouve,
pourvu que ça dure,
de se séparer,
que
ça continue, pour continuer à enrichir la diversité,
oui,
nantaise,
oui,
du cinéma.
Oui, parce que c'est
proposition diverse.
C'est aussi à travers le cinéma de genre, sur un festival comme la SNIF, on a une quinzaine de nationalités différentes,
oui,
et des films l'Absurde Séance est distributeur indépendant, donc en fait sur certains films où on n'a pas de distributeur en France, le CNC nous accorde en fait le statut de distributeur, ce qui nous permet de distribuer le film.
D'accord.
Pour pouvoir le projeter,
oui.
Et donc du coup, sans ça, en fait, il y a plein de films qui n'auraient pas du tout aucune visibilité sur le territoire
donc
national.
Ça permet de faire vivre des films.
Complètement.
Donc ça, c'est vraiment vraiment génial. Et puis de montrer en avant-première certains films aussi qui ont déjà un circuit de distribution tout tracé. Je pense à Vincent doit mourir,
exactement,
The Substance que vous avez proposé.
Complètement.
Donc à la fois des films plutôt qui vont vivre leur vie sans problème, et puis d'autres méconnus et qui peuvent être avoir ce tremplin. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, vous êtes toujours dans Film et moi, en compagnie de Jérôme Romain. Et maintenant, tournons ensemble les pages de notre agenda. Un seul mot, riche, enfin trois fois, riche, 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 cette fin d'année cinématographique. Quels que soient vos choix, vous n'en avez que l'embarras. Vos pupilles ne peuvent qu'être comblées. J'ai sélectionné pour vous le festival Migrants Scène, organisé par la CIMAD jusqu'au 8 décembre. J'ai sélectionné au cinématographe Frankenstein, l'original, James Whale, d'après le génialissime livre de Mary Shelley.
C'est mon livre, en plus.
C'est mon livre préféré, vraiment.
Je viens de finir le livre.
C'est extraordinaire, le style est assez génial. Et Mary Shelley, voilà, une femme un peu dans l'ombre de son mari. Le film, rien que pour se plonger dans cette ambiance, le 27 novembre à 14h au cinématographe. Au cinématographe également, le 29 novembre à 20h45, un documentaire de Valérie Müller de 2019 qui a obtenu le grand prix au FIPADOC de Biarritz, qui s'appelle « Danser sa peine » sur des détenus qui mettent en scène un spectacle chorégraphique avec Angelin Prajlokage en particulier. Au Concorde et dans d'autres salles du département, à voir « No Other Land » qui a eu le prix du meilleur documentaire à la Berlinale cette année. À voir pour ne jamais se résigner à l'extermination en cours du peuple palestinien et qui montre que le cinéma a toujours été, est et restera un phare pour éclairer les égarements et les noirceurs du monde et donner peut-être quelques cabanes d'espoir dans la jungle de désespoir, parce que dans ce film No Other Land, il y a une rencontre sur les décombres, donc c'est vraiment à voir. Il y a aussi à venir La mer au loin de Saïd Hamish avec la splendide Anna Mouglalis et Grégoire Collin. Sans oublier le nouveau et prometteur film de Nabil Ayouch, Everybody Loves Tuda. Et puis le tendre et touchant Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, pour petits et grands, une épopée en 3D d'un vilain matou au secours de l'espèce animale. Il y a aussi un documentaire à venir, Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, sur la photographe allemande, donc Leni Riefenstahl, et ses complicités avec le régime nazi, à venir au cinéma 14A. Alors, régalez-vous, continuez à inonder les nombreuses salles de cinéma de la région de votre présence. Merci à toi Jérôme.
Merci Nathalie.
Et puis à très bientôt donc, dans la bande-son, tous les lundis sur Jet. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Film et moi.
C'était Film et moi,
l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.